Sera-t-il la dernière cartouche d'Emmanuel Macron après les Outre-mer et les armées? Sébastien Lecornu arrive à Matignon. Il a été nommé cette nuit pour nos premiers ministres. Sébastien Lecornu connaît bien la Nouvelle-Calédonie et sa nomination à Matignon suscite des réactions sur le territoire. On en parle dès le début de ce journal. Une assemblée générale extraordinaire de la CCI, elle fait suite aux affaires judiciaires de son président. Les élus ont voté la confiance pour maintenir David Nguyen en poste. Lundi prochain, une jeune Calédonienne signera à la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein, son contrat d'engagement dans l'armée de l'air et de l'espace. Il s'agira du 100e contrat signé pour 2025. Et puis trois athlètes calédoniens participeront avec l'équipe de France au championnat du monde d'athlétisme handisport à New Delhi en Inde. Parmi eux, Pierre Fairbank, vous l'entendrez à la fin de ce journal. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Sébastien Lecornu est donc le nouveau Premier ministre. Il a été nommé par Emmanuel Macron tôt ce matin pour nous, 24 heures après la chute du gouvernement Bayrou. Il est le troisième chef du gouvernement nommé depuis la dissolution et le cinquième depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron. La passation de pouvoir aura lieu à midi à Matignon. Il sera 21h ce soir à Nouméa. Âgé de 39 ans, Sébastien Lecornu a été membre de tous les gouvernements depuis 2017. C'est un fidèle du chef de l'État. Depuis mai 2022, il était ministre des Armées et auparavant, il avait été ministre des Outre-mer. À ce titre, il connaît très bien la Nouvelle-Calédonie où il est venu à plusieurs reprises. Il a notamment suivi de près le processus référendaire, Jean-François Bonnin.
Sébastien Lecornu est nommé ministre des Outre-mer en juillet 2020 et son premier déplacement a lieu en octobre, quelques semaines après le deuxième référendum qui a eu lieu le 4 octobre. On est en pleine crise Covid en métropole et Sébastien Lecornu passera 14 jours à l'isolement après son arrivée le 24 octobre Nouvelle-Calédonie. C'est lors de ce premier déplacement qu'il organisera le groupe Le Prédour, en réunissant de façon impromptue 10 responsables politiques, 5 partisans de la France et 5 indépendantistes sur l'île Le Prédour pour renouer le dialogue. Quelques mois plus tard, en juin 2021, il organise une rencontre à Paris pour fixer la date du troisième référendum et la suite du processus. Il est alors décidé que, quel que soit le résultat du référendum fixé au 12 décembre 2021, il serait suivi d'une période de transition de 18 mois avant un référendum de projet fixé à juin 2023. Un calendrier qui, on le sait, ne sera pas tenu. Sébastien Lecornu revient une deuxième fois sur le territoire en octobre 2021, 2 mois avant le troisième et dernier référendum pour poursuivre le dialogue. La Calédonie est rattrapée par le Covid et les indépendantistes réclament le report du troisième référendum, mais le ministre des Outre-mer maintient la date du 12 décembre parce qu'en démocratie, dit-il, les élections se tiennent à l'heure dite. Sébastien Lecornu sera présent en Nouvelle-Calédonie pendant le déroulement du troisième référendum. Il y arrive le 10 décembre et il reste à l'isolement pendant 5 jours, mais il est sur place pour cette troisième consultation boycottée par les indépendantistes. Lors de l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon en mai 2022, Sébastien Lecornu devient ministre des Armées et c'est sous cette casquette qu'il effectuera 2 déplacements en Nouvelle-Calédonie. La première fois en juillet 2023 lors du déplacement sur le territoire d'Emmanuel Macron, la seconde en décembre 2023 pour un sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Il reviendra également sur le territoire en mai 2024 quand il accompagnera le président de la République et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, quelques jours après le début des violences insurrectionnelles. Sébastien Lecornu connaît donc bien la Nouvelle-Calédonie et nous avons eu l'occasion de le recevoir à plusieurs reprises dans les studios de Radio Rythme Bleu. Sa nomination à Matignon est bien accueillie chez les partisans de la France et notamment par le député Nicolas Metzdorf que nous avons joint à Paris.
C'est une excellente nouvelle. Sébastien Lecornu, il n'y avait pas meilleur choix, je crois, pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie en particulier. C'est peu dire qu'il connaît bien la Nouvelle-Calédonie, il la connaît en détail, il connaît les acteurs, il connaît le dossier, il a toujours continué à le suivre. C'est vraiment une très très bonne nouvelle, très satisfait, très heureux que le président ait fait ce choix et qu'il l'ait fait rapidement parce que le calendrier législatif de l'accord de Duval va pouvoir se poursuivre dans les temps. Et donc, c'est vraiment une excellente chose. J'avais dit que les indépendantistes les plus radicaux de la CCAT se réjouissaient un peu trop vite de la chute de François Bayrou parce que derrière, ça serait Sébastien Lecornu. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va voir comment il va prendre le dossier. Ça sera certainement aussi une autre dimension parce qu'auparavant, il était ministre des Outre-mer. Maintenant, il est Premier ministre. On peut considérer aujourd'hui même que le dossier calédonien risque de repasser un petit peu à Matignon.
Satisfaction aussi pour Sonia Baquès, la présidente de la province Sud et chef de file des loyaliste. Elle connaît très bien Sébastien Lecornu. Ils ont notamment siégé ensemble dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Sonia Baquès salue la nomination de Sébastien Lecornu et affirme que la mise en œuvre de l'accord de Bougival va se poursuivre.
Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la France. Je pense qu'il y a la capacité à trouver des équilibres par la négociation, qui est sans doute le meilleur à avoir. Et puis pour la Nouvelle-Calédonie, Calédonie, l'avantage, c'est qu'il sait exactement tout ce qu'il en est, puisqu'il a participé à toutes les séquences et que personne ne peut lui re-raconter l'histoire. Donc on va à la fois gagner du temps et avoir quelqu'un qui est très respectueux de chacun et qui sait exactement ce que chacun représente et souhaite. Je pense qu'il fait partie de ceux qui continueront le processus qui a été engagé et qui soutiennent l'accord qui a été signé et qui participeront à sa poursuite et en même temps au maintien du dialogue avec ceux du FLNKS qui veulent le maintenir.
Réaction également de Virginie Rufnak, la chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
C'est plutôt une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie parce que Sébastien Lecornu connaît très très bien le sujet calédonien, parce que c'est un ministre qui a du poids, qui faisait partie des ministres d'État et qui avait en charge celui du ministère des Armées. J'espère maintenant que ce ministre que nous connaissons bien et encore une fois que je félicite de sa nomination s'engagera pleinement dans la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Je rappelle que cela faisait 27 ans qu'il n'y avait pas de signature d'accord entre l'ensemble des parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie et que cet accord suscite beaucoup d'espoir chez les Calédoniens qui ont besoin plus que jamais que leur horizon soit dégagé et avec de la visibilité sur leur avenir. En dehors de cet accord, il n'y a pas de visibilité possible et c'est la raison pour laquelle nous comptons vivement sur ce nouveau gouvernement, désormais dirigé par Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, pour mettre en œuvre ce processus de Bougival qui est important pour l'ensemble des Calédoniens et notamment le monde économique.
Virginie Rufnak au micro d'Elisabeth Noir.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Êtes-vous satisfait de la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre pour succéder à François Bayrou? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, à l'unanimité, les auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que Juliette Collet, qui a été élue Miss Nouvelle-Calédonie 2025, est une belle image pour représenter la Nouvelle-Calédonie au concours de Miss France. En l'absence d'Alcide Ponga, qui participe actuellement au Forum des îles du Pacifique à Honiara, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est réuni ce matin sous la présidence d'Isabelle Chambereau, Jean-François.
Le gouvernement a notamment examiné un avant-projet de loi du pays qui vise à fixer un cadre clair, moderne et adapté pour la sécurité des opérations aériennes. Dans un autre domaine, le gouvernement a octroyé à la société Lefroy des mesures exceptionnelles pour une durée d'un an. La société est ainsi exceptionnellement exemptée des droits et taxes à l'importation sur certains produits qu'elle importe et dont les caractéristiques peuvent se substituer aux produits qu'elle fabriquait localement avant la destruction de son usine. La société demeure cependant redevable de la TCI, de la TAT, de la taxe sur certains produits alimentaires contenant du sucre et de la TGC. Le gouvernement a également fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur public au titre de l'année 2025. Il s'agit de la FEDE, de l'USOINC, de l'USTKE et du TCFE-CGC.
Au chapitre institutionnel encore, les élus de la province sud se retrouvent demain matin pour une séance publique au cours de laquelle ils doivent étudier 9 délibérations. Ils devront notamment approuver le plan provincial de prévention de la délinquance. Ils doivent aussi valider la création d'un dispositif d'incitation à l'installation et à l'équipement ou au rééquipement des cabinets sanitaires libéraux. Le 54e sommet du Forum des îles du Pacifique se déroule donc actuellement à Honiara, aux îles Salomon, et la délégation calédonienne est conduite par le président du gouvernement, Alcide Ponga, Jean-François.
Il devait être à l'origine accompagné d'Adolphe Digoué, mais celui-ci a renoncé à faire le déplacement en raison d'un deuil. Le président du gouvernement a pris la parole ce mercredi pour présenter aux pays du Pacifique le compromis de Bougival. Il a déclaré que la Nouvelle-Calédonie est divisée par la concurrence de deux légitimités, l'une pro-française et l'autre kanak, et que pour dépasser cet antagonisme, tout ce qui existe a été tenté. Pendant plus de 30 ans, la Nouvelle-Calédonie a été le laboratoire de tout ce qui existe en matière de décolonisation et de processus démocratique, a déclaré Alcide Ponga, mais la violence est revenue. Pour lui, la vraie question n'est pas de choisir un camp, mais de créer les conditions et d'accompagner vers la réconciliation et l'émergence d'un pays en partage, comme le prévoit l'accord de Bougival. Il a décrit un compromis politique dans lequel les deux souverainetés ont accepté de s'engager ensemble dans le chemin du compromis et de la réconciliation. Le président du gouvernement a également affirmé que le développement économique est au cœur de la stratégie calédonienne, parce qu'il n'y a pas de paix durable sans une économie solide. Les travaux du 54e sommet du FIP vont se poursuivre à huis clos jusqu'à vendredi.
Et en marge de ce sommet du Forum des îles du Pacifique, les premiers ministres des îles Salomon et des îles Fidji ont signé un accord de coopération en matière de sécurité. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Cet accord porte essentiellement sur la sécurité que les îles Fidji pourraient être appelées à fournir aux îles Salomon en cas de nécessité. Nous sommes liés par l'océan Pacifique, notre culture et notre histoire commune, a indiqué Jeremy Manele, lequel a rappelé que les soldats fidjiens ont servi aux îles Salomon pendant la Seconde Guerre mondiale et lors de récents troubles sociaux. Les îles Fidji sont prêtes à vous apporter à nouveau leur soutien en matière de sécurité et leur coopération humanitaire en cas de catastrophe naturelle, a déclaré en réponse Sitiveni Rambuka. Il se murmure également à Honiara que l'Australie envisage à son tour de négocier un accord de sécurité avec les îles Fidji. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 17h55, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie. Nous irons notamment au palais de justice de Nouméa pour la fin de la première affaire de la troisième session d'assises de l'année.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur ». À la galerie Artebello, rue Auguste Brun, expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Info Soir, Jean-François Baudin.
Et c'est Lionel Sabot, mais c'est pas grave. Actualité judiciaire et verdict attendu ce soir dans la première affaire de la troisième session d'assises de l'année. Un homme de 44 ans est accusé du meurtre de son voisin par arme blanche dans la nuit du 21 mai 2021 à Ducos. Nous retrouvons en direct du palais de justice de Nouméa, Mickaël Juneski.
Oui, absolument. Le verdict qui est toujours attendu ce soir dans ce procès qui s'est ouvert hier, celui, vous le disiez, d'un drame sur fond d'alcool. L'accusé Derek Igoa est donc jugé pour le meurtre d'Emile Finao. C'était en 2021 à Ducos. On le rappelle, la victime avait succombé à l'hôpital à des blessures provoquées par des coups de ciseaux infligés lors d'une bagarre, un dénouement tragique donc dans cette querelle. La relation conflictuelle entre ces deux voisins a été longuement détaillée durant ce procès. Dans ses réquisitions, l'avocat général a évoqué une intention de commettre un homicide caractérisé avec des zones vitales qui ont été ciblées. Il pouvait agir différemment, selon l'avocat général, à propos de l'accusé. L'avocat général qui a toutefois admis que si Derek Igoa présentait de manière générale une inclination à la violence lorsqu'il était alcoolisé, il avait adopté une posture de repentance. L'avocat général qui a requis une peine de 12 ans de réclusion. La défense, de son côté, s'est attachée à démontrer dans sa plaidoirie que de nombreux doutes demeuraient dans ce dossier. L'attitude de la victime avant le drame, ses provocations répétées avant le passage à l'acte de l'accusé, le dysfonctionnement de l'administration judiciaire alors que le différend entre les deux voisins était connu depuis 2019, et même le décès d'Emile Finao consécutif un choc sceptique à l'hôpital, choc sceptique qui n'avait été découvert qu'après le traitement de sa première blessure, la plus grave infligée au thorax, au cœur plus précisément. La défense qui a demandé pour sa part la requalification des faits en coup mortel et qui a demandé une peine inférieure à 10 ans de prison. Les jurés se sont retirés pour délibérer depuis près de 2 heures maintenant. En direct du palais de justice de Nouméa, Mickaël Juneski, RRB.
La CCI réunissait une assemblée générale extraordinaire ce matin et les élus ont renouvelé leur confiance au président David Guyenne, Jean-François Bonin.
Cette réunion avait été réclamée par les élus de la liste Alliance pour la Relance, battue lors des élections consulaires. La mise en garde à vue fin juillet de David Guyenne, entendu pour une affaire concernant son activité professionnelle, avait suscité de nombreuses réactions. Dans un premier temps, David Guyenne s'était mis en retrait et la présidence de la Chambre avait été assurée de manière temporaire par l'un des vice-présidents, Stéphane Yoto. Mais les élus de la liste Alliance pour la Relance ont pointé une crise de gouvernance et lancé un appel à la responsabilité et à l'action, estimant que la Chambre de commerce et d'industrie traverse une crise sans précédent. La question était donc de savoir comment doivent s'organiser les instances de la Chambre de commerce et d'industrie et c'était l'objet du vote de confiance organisé ce matin. Seule une assemblée générale extraordinaire est compétente pour soumettre cette question aux élus. Et la majorité des élus, 20 élus sur 33, a donc aujourd'hui renouvelé sa confiance au président David Guyenne. Écoutez Laurent Jandot, membre de la liste d'opposition Alliance pour la Relance.
La majorité des élus ont souhaité maintenir le président en exercice dans ses fonctions. Donc ils lui ont renouvelé sa confiance, bien malgré les problèmes judiciaires qu'il a rencontrés, les malheureux problèmes qu'il a rencontrés récemment. Donc nous prenons acte de cette décision et continuons à nous engager dans le respect de la Chambre de commerce et d'industrie.
Dans quel climat se sont déroulés les débats du jour ?
C'est pas un moment agréable. Chacun a pu s'exprimer et donner son avis. La priorité de la Chambre reste de toute façon vers la reconstruction et vers l'assistance aux entreprises. Donc ça, évidemment, ça restera la priorité absolue.
Dans ce contexte, l'équipe dirigeante et l'ensemble des acteurs de la CCI doivent en effet continuer de trouver des solutions pour faire face aux impacts de la crise économique générée par les émeutes de mai 2024.
Et notez que David Guyenne sera demain matin notre invité à 7h30, notre invité du matin. C'est la première fois qu'il s'exprimera depuis sa garde à vue fin juillet. Autre rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, trouver de nouveaux financements pour soutenir l'économie calédonienne. Les acteurs calédoniens, publics et privés, ont participé la semaine dernière au premier forum commercial Union Européenne Pacifique à Fidji. Sur quel projet et dans quel secteur l'Union Européenne peut-elle apporter un soutien financier à la Calédonie et peut-on attendre des retours rapides? Nous en parlerons demain midi dans les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Jean-François Bonin recevra Candice Levet de Team France Export, Luc Sorlin du cluster maritime et Cécile Chambaud-Redon du cluster NCTI. Les professionnels du tourisme en Calédonie réunis à la station N cet après-midi, réunion de travail qui avait pour thème la relance de la promotion internationale de la Calédonie dans le secteur touristique. Une session qui a réuni le secteur hôtelier, les différents prestataires touristiques de la province sud. L'occasion pour ces acteurs de s'exprimer autour des difficultés qu'ils rencontrent après les émeutes de l'an dernier. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie et des sujets liés à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Il est aussi le président de Nouvelle-Calédonie Tourisme.
Déjà, c'est important de pouvoir voir les différents prestataires touristiques de la Nouvelle-Calédonie. Là, on le fait sur la province sud, on le fera en province des îles et en province nord également. L'idée est de voir un secteur qui est durablement impacté par la crise parce que on voit que tous les secteurs vraiment sont touchés par cette crise émeute, mais le secteur touristique en particulier. Donc ça nécessite à la fois de redéfinir notre politique en matière de promotion internationale, mais également de prendre des mesures particulières pour ces secteurs qui sont durablement impactés et qui sont peut-être plus lourdement impactés. On va trouver des solutions et j'ai toujours considéré que c'était important de pouvoir échanger directement avec les prestataires, d'avoir leur vision des choses qui est une vision terrain et une vision pragmatique et pas prendre des décisions ou des solutions qui sont déconnectées de la réalité. Là, moi, j'ai envie d'échanger au plus près des acteurs et qu'on puisse, dans les prochaines semaines, proposer des solutions qui soient connectées à la réalité.
Christopher Gigès au micro Radio Rythme Bleu de Kalinda Boakou. Des réunions seront aussi organisées en province nord et île avant la fin de l'année pour permettre à la Calédonie de mettre en place un plan de relance touristique. Venons-en à l'actualité militaire et l'engouement des jeunes pour l'armée. Lundi prochain, une jeune calédonienne recrutée par le bureau R du CIRFA de Nouméa signera à la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein, son contrat d'engagement dans l'armée de l'air et de l'espace. Il s'agira en fait du 100e contrat signé depuis le début de l'année 2025 par l'armée de l'air et de l'espace. Écoutez le colonel Alban Georges Grandpierre, le commandant de la base aérienne 186 de la Tontouta.
Traditionnellement, ce chiffre est plutôt atteint en fin d'année. Nous avons un engagement et une jeunesse qui veut s'engager cette année de façon massive. Et c'est pour ça que avoir un 100e contrat au mois de septembre est quelque chose d'assez extraordinaire. Notre jeune engagé, la 100e, s'engage en tant que sous-officier comptable. C'est des spécialités qui peuvent paraître très sédentaires, mais à chaque fois qu'une unité, que des militaires se déplacent, on va avoir besoin de cuisinier, on va avoir besoin de comptables, de tout le soutien qui va avec. Cette jeune recrue donc va être accueillie par les équipes de l'armée d'air et d'espace pour passer une journée sur Paris, avant de prendre le train direction Rochefort, l'école des sous-officiers de l'armée de l'air et d'espace. Je suis à chaque fois admiratif devant le courage de ces jeunes qui partent à 18 000 km de chez eux, qui passent par la base aérienne en début d'après-midi, qui décollent pendant la nuit, pour rejoindre la métropole.
Et j'ajoute que d'ici la fin de l'année, une quarantaine de jeunes Calédoniens pourraient encore concrétiser leur engagement dans l'armée de l'air et de l'espace. La journée des métiers et de l'orientation, c'était ce matin au lycée à Saint-Pierre-Chanel, à la Conception, de 8h30 à 11h. Les élèves et parents ont pu rencontrer une quinzaine d'intervenants du domaine scolaire et professionnel. Jean-François.
Cette matinée avait pour objectif d'ouvrir le champ des possibles aux élèves de terminale, de BTS et de FCIL, formation complémentaire d'initiative locale, permettre à ces jeunes de découvrir une grande diversité de métiers, parfois en lien avec leur parcours actuel, mais parfois plus éloigné, et aussi favoriser les échanges avec les professionnels, comme Thibaut Genin, RH en charge des cadres à la SLN.
C'est à la fois pour susciter des vocations pour le secteur de la mine, qui souffre parfois d'une pénurie, en termes de compétences, d'expertise, et on a envie de dire aux jeunes, venez, il y a plein de choses à faire chez nous. Et puis c'est aussi l'occasion de parler du secteur qui a souffert l'an dernier, et pour dire que voilà, on est de nouveau là, on est présent, on essaie de relancer de l'activité un peu partout sur le territoire, et pour le territoire. On a besoin de leur dire, formez-vous, montez en compétences. Le monde professionnel, il évolue, il bouge. Et donc, on a besoin que ces jeunes s'engagent en compétences pour justement mieux répondre à nos besoins de demain. Nous, notre but, c'est les orienter sur les compétences dont on aura besoin demain. Voilà, donc de manière à pouvoir les aider dans leur choix, pouvoir s'orienter sur la bonne filière, aller chercher le diplôme le plus utile pour l'employabilité.
Depuis plusieurs semaines déjà, les élèves préparent cette demi-journée. Ils ont notamment mis en place des ateliers, des rencontres et ils ont aussi créé des fiches découvertes. Pour Alaoussia, Yumiko et Cyril, elles serviront à faire le point sur toutes les informations qu'ils ont récupérées pendant la matinée.
Je remplis ce qui m'intéresse à propos des formations pour m'aider pour plus tard, vu que je ne sais pas ce que je vais faire. C'est intéressant.
Là, la FCIL, Community Manager. C'est tout ce qui est en rapport avec la communication dans les entreprises et tout. Puis après, on va faire le tour encore. Ça va m'aider à savoir après quelle formation je vais faire ou quel métier je vais faire plus tard. Du coup, ça m'aide beaucoup.
Oui, ça m'intéresse depuis que je commençais en première. J'ai tout le temps voulu continuer mes cours en FCIL, mais c'est bon, j'ai compris maintenant comment ça marche, la formation.
Et en marge de cette journée des métiers et de l'orientation, les élèves Bac Pro métiers du commerce et de la vente ont eux organisé une vente de miel.
Un cap sur 2026 pour l'école du design qui organise ses journées portes ouvertes. L'école propose différentes formations à partir d'un niveau baccalauréat, la prépa art et design, la formation infographiste designer reconnue en métropole et en Nouvelle-Calédonie, mais aussi le bachelor designer graphique web. Marilyn Mercier est la directrice de l'école du design.
Cette année, on a 30 étudiants. On peut accueillir jusqu'à 50 étudiants à l'école du design. Tous nos formateurs sont des professionnels de ces métiers qui prennent de leur temps pour enseigner à l'école. Il faut savoir que nous, c'est que des compétences professionnelles. Aujourd'hui, mercredi 10 septembre, c'est le lancement de nos journées portes ouvertes. C'est ouvert à tous. C'est gratuit, hein, bien sûr, l'entrée est libre et donc on se fera une joie d'accueillir un large public pour justement échanger avec ses étudiants, avec les formateurs de l'école du design, voir les projets qui sont effectués justement pendant ces années de formation et également répondre à toutes les questions pour pouvoir préparer au mieux la rentrée 2026.
La formation Bachelor Designer Graphique Web consiste à créer des stratégies et des supports de communication. Écoutez le point de vue de ces étudiantes qui sont dans cette section.
J'avais choisi cette filière surtout pour apprendre les logiciels de création graphique, on va dire. Et en plus, elle est en alternance, ce qui est super intéressant pour moi. C'est une bonne école, on est très proche du personnel. Voilà, même si on n'a pas forcément un niveau élevé au départ, on peut quand même y entrer.
Je fais ça pour devenir graphiste. Du coup, le métier de graphiste, il a énormément de nouvelles palettes à ce jour. Et je pense que le web, il se rajoute. Et donc, c'est très important en tant que graphiste maintenant d'être polyvalent. Je pense que les métiers créatifs, c'est des métiers d'avenir qui s'adaptent énormément avec l'intelligence artificielle. Les cours, ils sont très complets. Les profs, ils sont hyper disponibles et il ne faut pas hésiter à partir sur des métiers qui sont peu communs, comme le métier de graphiste.
Des propos recueillis par Marie Romain. Les portes ouvertes de l'école du design se poursuivent jusqu'à samedi à 13h. Il est 18h08. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Savez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et la Nouvelle-Calédonie qui sera une nouvelle fois très bien représentée au prochain championnat du monde d'athlétisme en e-sport, compétition qui aura lieu du 27 septembre au 5 octobre en Inde. Trois Calédoniens porteront les couleurs de l'équipe de France, Félicien Siapo, Vittorio Cavacava et l'éternel ou presque Pierre Ferbonck, champion du monde en titre sur le 400 et le 800 mètres fauteuil. Il espère bien une nouvelle fois décrocher de l'or.
Bien sûr, l'objectif c'est toujours de gagner, d'être le premier. Au pire, on est deuxième. Mais non, voilà, toujours viser la première place et puis se faire plaisir et faire son mieux, voilà. De faire comme ce qu'on fait à l'entraînement, mais voire mieux. Donc le travail paye toujours et plus on s'entraîne et plus on a de chances de réussir. C'est vrai que là, en ce moment, c'est la phase finale, donc avec l'entraîneur Olivier Degnaud et puis les deux autres athlètes, Félicien et Vittorio, ben, on s'entraîne, voilà, pour partir à ces championnats du monde, en espérant représenter au mieux la Calédonie et puis l'équipe de France. Voilà, comme d'habitude, on va essayer de faire plaisir à tous ceux qui nous encouragent et aux médias qui nous soutiennent.
Et les championnats du monde d'athlétisme en e-sport, ce sera donc du 27 septembre au 5 octobre à New Delhi en Inde. Rappelons que trois parathlètes calédoniens porteront les couleurs de l'équipe de France, Félicien Siapo, Vittorio Cavacava et donc Pierre Ferbonck. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Pierre.
Cette nuit, le ciel s'annonce majoritairement étoilé sur la façade ouest du territoire, tandis que des passages nuageux viendront voiler par moments le ciel dans les autres régions. Ces nuages pourront laisser échapper quelques gouttes éparses, notamment sur la côte est. Le vent d'est à nord-est se montrera plus discret, aussi entre 5 et 10 nœuds. Sur l'ouest, il restera souvent faible et variable. Les températures minimales repartiront légèrement à la hausse, et ça fait plaisir, avec des valeurs comprises entre 13 et 21 degrés. Demain matin, l'ouest profitera d'un franc soleil dès les premières heures du jour. Ailleurs, le ciel jouera entre éclaircies et passages nuageux avec un faible risque d'averses localisées du côté de la côte est. Le vent sera quasiment absent sur la côte ouest, tandis qu'il soufflera ailleurs au secteur nord-est, généralement entre 5 et 10 nœuds.
Et c'est la fin de ce journal à 18h12. Merci de l'avoir suivi. Il sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc.